Bonjour, vous écoutez Radio FM Plus 91 FM. Dans le fil du fer, nous tendons le micro à celles et ceux dont le parcours, les choix et les expériences de vie dessinent un autoportrait singulier. Aujourd'hui, mon invité est Vincent Bobet, secrétaire général de l'Opéra Orchestre National Montpellier-Occitanie. De la communication au mécénat, du numérique au spectacle vivant, son itinéraire est marqué par une curiosité insatiable et une volonté forte de rendre la culture accessible à toutes et tous. Et aujourd'hui, au micro, je serai accompagné par Hélène Bertrand-Féline, qui est bien connue de nos auditeurs et auditrices à Radio FM+. Bonjour Vincent, bonjour Hélène.
Bonjour.
Bonjour.
Vincent, votre parcours est marqué par une grande diversité d'expériences, du numérique à la communication, en passant par la politique et aujourd'hui l'opéra et l'orchestre. Comment ces différentes étapes ont-elles façonné votre identité professionnelle et personnelle ?
C'est complexe, justement, ça rend toute la complexité des personnes, hein, cette somme d'expériences, de rencontres. Font les personnes que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à être devant un micro, à interviewer des gens, à s'intéresser à eux? Je pense qu'effectivement, c'est toutes ces rencontres et c'est l'ensemble de ces milieux dans lesquels on a pu travailler qui font qu'aujourd'hui, on va un peu puiser à cet endroit-là pour ramener de cette compétence-là ici à là. Le fait d'avoir travaillé 10 ans en restauration, ça m'apporte effectivement le sens du service bien accompli, le sens de l'écoute, le sens de l'accueil, d'être sensible effectivement à ce que la clientèle, à ce que les gens qui viennent dans nos salles soient les plus agréablement surpris. Le sens du politique, parce que on est là pour effectivement répondre à un besoin de culture accessible au plus grand nombre, avec, ne nous cachons pas, hein, 80% de notre budget qui est donné par les collectivités publiques, aujourd'hui encore. Donc d'avoir effectivement ce background là, ça permet de comprendre les rouages, les fonctionnements de tout cela. Passer par le numérique, moi c'est une compétence que j'ai fortement développée, qui heureusement aujourd'hui c'est quelque chose de très entendu à l'Opéra de Montpellier, de très développé, parce que Valérie Choyer, la directrice, a une corde très développée dans ces aspects-là. C'est une geek, dans le sens positif du terme, vraiment elle est très friande de toutes ces nouvelles technologies, et je pense qu'aujourd'hui c'est nécessaire que de s'intéresser à tout cela.
Continuons sur votre parcours atypique. Alors, celui-ci n'a rien de linéaire, reprise d'études à 27 ans, travail en restauration en parallèle des études, immersion dans la politique, passage par le privé, etc. Avec du recul, Vincent, quels ont été les moments clés qui vous ont permis d'évoluer et de trouver votre voie ?
Je crois qu'il y en a eu un certain nombre. Il n'y a pas eu de moment décisif. Je pense que c'est une posture globale et permanente. J'ai toujours nourri une grande curiosité. Je suis extrêmement curieux. Je m'intéresse à tout, ce qui fait un petit peu dresser les cheveux sur la tête de ma compagne, parce que effectivement, je vais pouvoir passer des heures à parler avec le plombier et en même temps d'aller écouter une conférence sur le monde symphonique, qu'est-ce que le vérisme, voilà. Moi, c'est ce qui fait ma grosse compétence, je crois, aujourd'hui, c'est ma capacité d'écoute, et c'est ce qui a fait, je pense, le fait que j'ai pu transcender mon niveau social, arriver là où je suis aujourd'hui, c'est d'être capable de rencontrer les bonnes personnes, mettre les petits coups de pied aux fesses quand il fallait, et saisir les bons moments opportuns dans chaque chose.
Vous avez dû redoubler d'efforts à certaines étapes de votre parcours, notamment lors de votre reprise d'études, je crois à 27 ans. Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés et comment les avez-vous surmontés ?
Le défi premier, il est l'origine sociale. L'origine sociale qui va se traduire par bien évidemment le matériel, hein. Il faut travailler pour vivre, donc là, à 27 ans... je reprenais mes études, j'avais fait 10 ans de restauration, à la fin j'étais responsable d'un restaurant, donc je reprenais mes études, donc le jour j'étais sur les bancs de la fac, et le soir je dirigeais un restaurant, donc je dormais à peu près 3 heures par nuit, Je pense que je serais absolument plus capable aujourd'hui, à 44 ans, avec un enfant. Donc en fait, bon, tout ceci correspondait à une chance de le faire à ce moment-là. Aujourd'hui, ça serait, je pense, vraiment impossible. Le premier écueil, ça a été cette barrière matérielle et financière d'origine sociale. Le deuxième, il a été effectivement l'entourage social, ces déterminismes sur le fait de ne pas rencontrer les bonnes personnes, de ne pas être bien orienté et de ne pas avoir le réseau. Faut pas s'en cacher. Dans chacun des endroits où j'ai pu aller travailler, il y a des codes. Certaines personnes ont la chance de naître avec, de grandir avec. Donc moi, je m'attelle à donner un maximum de codes à mon fils aujourd'hui, de l'amener dans un maximum d'endroits pour qu'il puisse avoir un maximum de codes. Mais ces codes, quand vous arrivez dans un endroit, comme par exemple l'Opéra ou Ubisoft, les gens ne sont pas forcément là pour vous les apprendre. C'est à vous de développer ces capacités d'écoute, d'observation, de dire « Ok, donc ça, voilà ce qu'on attend de moi, voici ce qui est l'appétence attendue. » Et voilà, parce que oui, le déterminisme social, ça a été, dans tous ces aspects, le plus grand frein à combattre.
Quel était le déclic pour reprendre des études ?
Parce que j'ai toujours été très curieux, en fait. Je crois que j'avais fait le tour de tous les postes en restauration. Hein. Je passais de plongeur à barman, à responsable de salle, à cuisinier. C'est extrêmement prétentieux de dire ça, parce que là, l'autre fois, je rencontrais effectivement des chefs étoilés. Non, j'ai pas atteint ce niveau-là, clairement pas. Et je pense qu'il y a des niveaux d'excellence dans chaque domaine et chaque métier. Mais j'avais pas mon soul intellectuel, j'avais besoin d'avoir un échange. Et puis que depuis très très longtemps, en parallèle de la restauration, je faisais de l'infographie. J'essayais de bosser un petit peu comme ça. Je faisais toujours les cartes des restaurants dans lesquels je travaillais. Je faisais un petit peu de trois petits trucs. Donc j'avais cette appétence-là développée. Et puis j'avais envie tout simplement effectivement de changer, quoi.
Si un jeune homme ou une jeune femme d'aujourd'hui suivait un chemin aux étapes professionnelles aussi variées que les vôtres, Vincent, pensez-vous que cette personne aurait les mêmes opportunités ? Qu'est-ce qui aurait changé, selon vous, dans le monde du travail de la culture depuis que vous y êtes entré ?
Notre société ne cesse d'évoluer. À l'époque où moi, j'ai repris mes études, Internet était là, mais pour rappel, hein, on était à l'iPhone 2, je crois. Il n'y avait pas eu encore ce grand bouleversement des smartphones. Les réseaux sociaux, je me souviens, moi j'ai ouvert mon compte Facebook en 2007, c'est au même moment où je reprends mes études, donc en fait c'est absolument balbutiant. Donc en fait on n'est pas du tout dans les mêmes paradigmes, on n'est pas du tout les mêmes façons de voir les choses. Aujourd'hui, on est dans un contexte hyper concurrentiel. Chaque personne a dans la main un pouvoir immense à travers son téléphone de faire de la radio, de faire des podcasts, de faire des vidéos. Donc aujourd'hui, on a démocratisé la technologie, on a démocratisé effectivement le fait de tout un chacun pouvoir s'exprimer au plus grand nombre, ce qui était quasiment impossible à l'époque. Et donc ça, c'est une très grosse force, mais c'est la grosse faiblesse aussi, c'est qu'il y a une hyper concurrence. Donc pour arriver à sortir du lot, seuls ceux qui ont un talent vraiment très fort vont réussir à sortir du lot. Donc c'est leur chance, tant mieux. S'il y a du talent, c'est ce qui va vous différencier effectivement de tous les autres qui ont un diplôme, pour ceux qui ont la chance d'en avoir un. Mais qu'est-ce qui va différencier, c'est ce que j'enseigne aussi aux élèves que je rencontre, c'est « Ok, vous allez tous sortir avec le diplôme, mais qu'est-ce qui va faire la différence entre Mickaël et Sonia et Sylvie ?» Ça va être qu'est-ce que vous nourrissez à côté. Quelle est votre personnalité? Quelle est votre appétence, en fait? Qu'est-ce que vous nourrissez? Qu'est-ce qui vous meut? C'est quoi qui vraiment fait que toi, tu es Mickaël et elle est Sonia? Donc, versus, ok, vous avez tous appris le storytelling, vous avez tous appris à faire un site internet. Bon, ok, pour faire quoi et ça nourrit quoi?
Est-ce que dans le milieu de la culture, il est possible de changer, donc d'arriver dans le milieu de la culture, des arts, et donc de changer de voie à 30, 40 ou 50 ans ? Est-ce qu'il y a des différences ou est-ce que c'est un milieu qui reste curieux, ouvert et apte à accueillir des compétences, quel que soit l'âge ?
Moi, je peux juste parler à l'échelle de mon niveau, qui est tout petit. Ça fait un an et demi, presque 2 ans que je suis à l'Opéra. Donc, avant, j'étais pas vraiment dans le milieu de la culture. J'étais effectivement dans les industries créatives et culturelles. Donc, ça en est proche. Ubisoft, c'est des industries créatives, mais c'est pas vraiment la culture au sens où on l'entend. Il y a effectivement une nécessité d'être de générer une rentabilité économique et avec une mesure de cette rentabilité qui est permanente et qui peut être source aussi de belles choses. Hein. Il ne faut pas avoir la contrainte comme étant quelque chose de négatif. C'est difficile pour moi de répondre à cette question. Je n'ai qu'un an et demi dans le monde de la culture. Je pense que celui-ci a pour, de manière intrinsèque, la nécessité de se remettre en question, parce que la culture que l'on faisait avant n'est pas celle d'aujourd'hui, même si effectivement l'opéra, ça a 5 siècles. Il se renouvelle en permanence, on réécrit sans arrêt, même si on a des fois les mêmes livrets, les mêmes partitions, il y a toujours les interprétations de chacun, les interprétations d'un chef d'orchestre, les interprétations d'un metteur en scène ou d'une personne à la lumière qui va apporter quelque chose de différent. Et à chaque fois, je pense que chaque personne peut amener sa part de création, et c'est ce qu'on lui demande aujourd'hui, justement, parce qu'on arrive à un effet de seuil où beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ont été faites. Là, aujourd'hui, il faut arriver à se différencier. Donc, quand on va jouer un Mithridate, un Médée, une Force du Destin, ok, qu'est-ce qui va nous différencier de celle qui a été donnée à tel endroit? Bon, c'est un petit peu ce que les journalistes aussi vont rechercher. Et je pense aussi que c'est un petit peu l'essence même de tout acte de création, c'est de marquer sa patte.
Oui, et qu'est-ce qui va amener aussi tout un nouveau public à découvrir justement des œuvres données depuis un siècle ou deux, hein, c'est dans la créativité, oui, dans l'apport personnel, tout à fait. Oui. Mais dans sa question, dans la question de Lionel, c'est est-ce que du coup il existe une place pour des gens qui arrivent et qui comme vous sont un peu néophytes du coup par rapport à ce monde-là? Oui. Et dans lequel, voilà, justement, par le biais de la création, vous êtes rentré.
Alors moi, je suis rentré sous l'angle de, je suis un professionnel du marketing et de la communication et des relations publiques. Et vous ne recherchez pas un musicologue, ça tombe bien, je ne suis pas musicologue. Donc, mais par contre, je peux vous apporter des choses dont vous avez besoin, et c'est ce pourquoi vous m'embauchez aujourd'hui. Moi, je reste convaincu que chacun a sa place dans le monde de la culture. Par définition, la culture, c'est un acte de création, et qu'en fait, la création se nourrit de rencontres et se nourrit de nouveautés. Donc, moi, j'en suis absolument convaincu. Est-ce que le monde de la culture est prêt à accueillir chacun? Je ne sais pas, au regard du fait que les places sont très chères, il y a très, très peu de places. Les subventions tendent à réduire pour certains. Nous, on touche du bois. Pour l'instant, l'opéra, on n'est pas concerné par cela. Mais voilà, au regard de cela, on sait qu'effectivement, les emplois se paupérisent. Ça répond un petit peu à la question. D'un point de vue intrinsèque, bien sûr qu'il y a sa place pour tout le monde. Maintenant, est-ce que économiquement la culture peut faire sa place à tous? J'ai peur que ça soit complexe, ouais. Hélas.
Allons dans votre passé, au Sénégal, et quand vous aviez 18 ans. Donc à 18 ans, vous partez en Afrique, et votre périple vous a conduit, Vincent, à accompagner des groupes de musique en production. Je crois que ce n'était pas prévu. En quoi cette expérience a-t-elle été fondatrice pour votre rapport à la culture et à la communication ?
Pour remettre dans le contexte, on était au lycée avec mon meilleur ami, on nous dit qu'est-ce que vous faites après le bac, et on se regarde, on se dit mince, mais en fait on sait pas du tout, on n'y a pas réfléchi, on était à fond dans notre truc, et du coup on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait, on part en voyage, allez, du coup on bosse tous les deux 6 mois, on met de l'argent de côté et puis on part avec notre sac à dos. Au début on avait prévu un grand périple, Sénégal, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, bon ça s'est vite réduit à Sénégal avec un petit, tout petit bout du Mali, et voilà, mais déjà c'était absolument génial parce qu'on a rencontré toute une population, puis il faut le remettre dans le contexte, hein, deux jeunes gamins de 18 ans, on était vraiment, enfin c'était, maintenant que je me regarde, quand je vois les enfants de 18 ans, je me dis bon, ok. Et donc c'était assez fou, on a eu la chance de rencontrer effectivement deux groupes de musique, un groupe de musique traditionnel en djembé, à cette époque-là j'avais des dreadlocks et je faisais du djembé, donc une petite appétence pour cela, c'est drôle, et puis un groupe de reggae. Il se trouve qu'on logeait dans une famille où effectivement la personne qui nous logeait était dans ces deux groupes-là. On s'est aperçu que à partir du moment où au Sénégal, en tout cas à cette époque-là, c'était en 2000, quand un toubab, un blanc était dans une affaire, ils avaient la conviction que l'affaire allait marcher. C'était pour eux, ah, il y a un toubab, c'est bon, ça va marcher. Bon, c'est malheureux, mais c'est ainsi. On prend conscience du truc, on se dit bon, bah autant leur en faire profiter. Donc là, bien conscient de cela, on arrive à leur faire rencontrer le producteur de Youssoundour, qui est la star locale à l'époque, qui est l'équivalent de notre Johnny Hallyday. On enregistre une maquette en studio, on finance cette maquette, on va même poser les voix dessus avec mon meilleur ami de l'époque, et on a la chance aussi de passer à la radio nationale. Donc tout ça, c'était une vaste supercherie parce qu'en fait, on n'y connaissait absolument rien dans la production musicale, mais le fait d'avoir malheureusement juste cette couleur de peau, en fait, leur a ouvert des portes monumentales. Donc en fait, bon, quand on est reparti, on a continué de financer une maison pendant 2 ans qui faisait vivre à l'intérieur le groupe. Et puis le groupe a périclité, comme c'est souvent le cas dans certains groupes de musique naissants, où voilà, on a fini par arrêter à leur demande de financer cela. Mais c'était une aventure absolument géniale parce que bah, voilà, on s'est retrouvé à chaque rouage de qu'est-ce que c'est que la production musicale, sans y connaître absolument rien, et en se disant au retour, moi je me suis dit, mais en fait je sais absolument pas quoi faire de ma vie, mais ça c'est absolument génial, j'ai adoré ce truc, je veux faire un truc en lien avec ça. Donc la vie fera que il faudra que j'attende 8 ans plus tard pour remettre les pieds dans la communication, mais oui c'était, ça avait posé une grosse pierre à l'édifice. Ouais.
Venons-en à votre rôle de secrétaire général à l'ONM. En quoi consiste exactement ce rôle-là, celui de secrétaire général à l'Opéra Orchestre National de Montpellier ? Et peut-être nous dire quelles sont vos priorités stratégiques aujourd'hui ?
Alors, le rôle de secrétaire général, c'est un terme assez générique qu'on retrouve souvent dans le milieu de la culture, qui englobe plusieurs casquettes. Donc là, dans les faits, je suis directeur de la communication, du mécénat, des relations publiques, de la billetterie et l'accueil des publics. Donc, mes missions principales sont de diriger la communication, de faire en sorte que il y a un plan de communication qui soit établi, manager l'équipe, qui est une équipe extrêmement compétente. J'ai cette très grande chance vraiment à l'Opéra, où on internalise beaucoup de choses et énormément de choses sont faites en interne. On a un budget en communication qui est assez faible au regard de tout ce qu'on a à produire, 260 levées de rideaux par an, c'est gigantesque. Plus toutes les actions en développement culturel, c'est pléthorique vraiment tout ce qui est fait à l'Opéra Orchestre. Donc on a un budget de communication qui est assez faible, on internalise beaucoup de choses et on a aussi cette fierté de le faire en interne. On a des gens très compétents. Voilà, donc à côté de cela, il y a effectivement d'encadrer la billetterie. On est en train de changer le logiciel de billetterie cette année. C'est quelque chose que j'ai repéré en arrivant très vite. Il fallait changer celui-ci. 65% du trafic sur Internet se passe sur les terminaux mobiles, sur téléphone. Et là, en fait, je vous mets au défi d'acheter une place sur votre téléphone à l'Opéra de Montpellier. C'est compliqué. On a un outil qui date vraiment et qui est plus adapté effectivement aux technologies actuelles. Donc c'est pour ça qu'on a cette priorité. On fait tout en sorte là. On a un marché public en cours qui est encore en cours. Donc si vous avez un logiciel de billetterie, vous avez juste peut-être je vous le fais jusqu'à mercredi prochain pour déposer votre dossier. On est en train de renouveler notre logiciel de billetterie. On va le changer à la saison là, qui arrive. Donc ça, il y a un très très fort enjeu là-dessus parce qu'on sait que derrière, il va y avoir un impact sur les taux de remplissage des salles. On va y avoir un impact sur nous, ce que l'on peut faire, développer des nouveaux produits en marketing ou autre. Voilà. Et le très gros pan qu'on a développé cette année, c'est le mécénat. Le mécénat, parce que c'était l'Opéra de Montpellier ne m'a pas attendu pour le faire, pour le développer, mais on est arrivé à un niveau où aujourd'hui c'est devenu nécessaire de pouvoir développer du mécénat. On n'est pas les seuls à développer cela. Je me suis aperçu que, avant d'y travailler, je ne savais pas forcément, mais que tous les acteurs culturels de la place, en tout cas en France, tous tendent à s'y mettre, contraints et forcés pour la plupart, hein, mais avec cette une grosse ambition là-dessus, ouais, clairement.
Nous en reparlerons plus longuement après la pause musicale. Et vous avez choisi, Vincent, j'aime beaucoup en plus cet auteur, cette chanson de Woodkid, Run Boy Run. Behind the hills.
The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Run, boy, run. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. And disappear in the trees. Tomorrow is another day, hey. You don't have to hide away, yeah.
Vous écoutez Radio FM+, 91 FM, Vincent Bobet est au micro du fil du fer, secrétaire général de l'Opéra Orchestre National de Montpellier-Occitanie. Il nous raconte son parcours, des débuts dans le numérique, à son engagement pour la culture et le mécénat. Je suis toujours en compagnie de ma chère Hélène Bertrand-Féline. Alors un peu cette chanson, on vient d'en discuter, c'est quelque chose, une chanson que j'aime beaucoup de Woodkid, mais voilà, ma question c'est qu'est-ce qui résonne avec votre parcours dans dans ce titre, cette musique?
Alors, y a plein de choses, hein. La première, c'est que c'est un appel à l'émancipation, c'est un appel à développer qui vous êtes, c'est à essayer de vous affranchir des carcans sociaux, de ce qu'on attend de vous, de cette pensée unique, soyez qui vous êtes. Donc là, il appelle ce jeune qui veut vivre sa sexualité en tant qu'homosexuel à devenir qui il est, en fait, tout simplement. Alors, pour la petite histoire, c'est extrêmement drôle parce que Donald Trump, lors de sa première campagne, avait utilisé le truc, la chanson pour sa campagne. Donc, bien entendu, Woodkid n'avait pas donné son accord et c'était inscrit en faux. Mais juste pour la petite histoire, je trouve ça assez drôle que des gens qui condamnent effectivement la liberté d'opinion et la liberté sexuelle utilisent ça. Il a réitéré que YMCA, non mais la blague absolue. Et Woodkid aussi, parce que techniquement, pour moi, j'admire ce mec parce qu'il fait la jonction parfaite entre l'électronique, l'ultra-technicité, c'est au millimètre, c'est un de mes meilleurs concerts que j'ai jamais vu de ma vie, c'est le sien, avec effectivement le monde classique. Il y a des orchestres symphoniques à chaque fois avec lui sur scène. Il a une extrême compétence et il est pointu jusqu'au bout. Il y a une expérience scénique qui est absolument folle. Enfin, j'adore. Vraiment,
je plussois beaucoup. Revenons-en plutôt au mécénat. On s'était quitté sur la question du mécénat culturel. Avec l'initiative Mille Voix, je vous laisserai expliquer ce que c'est que cette initiative Mille Voix. Vous souhaitez élargir le mécénat culturel aux TPE et PME, très petites entreprises et petites et moyennes entreprises. Pourquoi est-ce important d'ouvrir ces financements à un plus large réseau d'entreprises et quels défis avez-vous rencontrés ?
Alors, lorsque j'ai pris les fonctions à la direction du mécénat, on s'est rendu compte qu'on on s'adressait à une certaine partie effectivement de mécènes, une certaine forme de mécène, donc les grands mécènes dont on a absolument besoin, qui nous soutiennent énormément, vraiment, et ça c'est plus que nécessaire. Merci encore à eux, vraiment, de leur soutien et de leur fidélité. Et on s'est dit aussi que chacun à son niveau pouvait intervenir. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'adresser une politique de mécénat qui soit la plus large possible. Donc on a été jusqu'à ce que les personnes puissent donner 5 euros par mois. Là, je me suis rendu compte que quand j'étais rentré à l'Opéra, je donnais à Greenpeace, je donnais à AIDS, à Médecins Sans Frontières, mais je donnais pas à la culture. Alors c'est quoi ce truc? C'est-à-dire qu'en fait, en France, on n'a pas forcément cette connaissance du mécénat culturel. Il n'y a pas... Parce que pendant des années, des siècles même, ça a été sous... sous ponction royale initialement et aussi plus récemment sous ponction publique. Et fort heureusement, effectivement, et nous on a cette grande chance à Montpellier d'être soutenu majoritairement par la métropole, la région et l'État. Donc encore merci à eux de leur soutien. Mais si on veut continuer d'être accessible au plus grand nombre et de continuer de développer toujours plus, il faut qu'on puisse développer des fonds propres. Donc si on ne veut pas aussi impacter ces nécessités financières sur le prix des billets, l'augmentation des coûts de production, on a pris l'augmentation de l'énergie, on a pris des sommes absolument folles en augmentation de coûts de l'énergie sur le chauffage. Donc il a fallu trouver nos fonds propres. Et ça ne, je pense que ce n'est que le début. On a mis en place effectivement cette politique à destination des TPE-PME sous l'impulsion de notre président Bernard Seyroux, qui en discutait avec André Daljari, le président de la CCI Hérault, et se disait bah tiens, si on pouvait proposer aux TPE-PME du territoire un chèque 1000 euros pour 1000 entreprises, ça ferait 1 million d'euros pour l'Opéra. Bon, allons-y, du coup, boum, ils sont partis très vite, et nous, derrière, on a mis en branle à la communication les choses. Pour l'instant, ça a relativement bien répondu. Oui, on a une quarantaine d'entreprises qui sont là. C'est pas gigantesque au regard de ce qu'on aimerait, mais c'est un très bon début. Et moi, je suis très content. Je remercie à chaque fois chaque personne qui nous soutient. On essaye de faire en sorte que chaque personne qui vient abonder, donc déjà, tout ceci est encadré dans le cadre de la loi Ayagon, qui permet une défiscalisation de son don. Donc la personne qui donne 1000 euros va pouvoir défiscaliser 600 euros si c'est une entreprise, 660 si c'est une personne privée, et va avoir droit à des contreparties à hauteur de 25% de son don. Donc nous, on essaie de faire en sorte que ces personnes, on puisse leur faire accéder à des choses qu'elles ne pourraient pas acheter. Donc c'est les faire accéder à des coulisses, les faire accéder à des répétitions, les faire rencontrer les chefs d'orchestre ou les artistes, et des visites privées, certains moments qui leur soient vraiment dédiés.
Avant de laisser la parole à Hélène, vous avez un gala, vous êtes parmi toutes les choses dont vous vous occupez, vous avez un gala. Donc l'émission est enregistrée le 13 février, il sera diffusé prochainement. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce gala, des objectifs et de ceux qui vous porte les messages que vous souhaitez faire passer par ce gala et quelle est son utilité? J'aime pas beaucoup ce mot.
Alors, parmi toutes les actions qu'on essaie de développer pour développer le mécénat, on s'est dit on pourrait... J'étais pas là au moment où ils l'ont créé. Là, on est à la troisième itération. J'ai réalisé celui de l'an dernier et celui de cette année. Donc là, ça sera le 14 mars. Les frères Pourcel vont signer le menu de cette superbe soirée qui va se dérouler dans l'Opéra. L'objectif étant de faire en sorte d'offrir aux gens un moment hors du temps, où ils vont venir manger de la gastronomie, ponctué d'interludes musicaux. Donc là, vous aurez les artistes de l'opéra-orchestre qui viendront, des solistes, mais aussi des gens du chœur et des musiciens. Donc, ils viendront au milieu des tables chanter, faire la musique, et le tout agrémenté de moments comme une vente aux enchères. Une vente aux enchères où un grand nombre d'artistes nous ont donné des œuvres à mettre en vente justement pour soutenir les actions en accessibilité et en formation des publics pour l'opéra. Parce que l'ensemble des bénéfices de cette soirée va justement servir à cela, à financer toutes les actions une grande partie des actions en accessibilité de l'opéra, parce qu'elles sont extrêmement nombreuses.
C'est un projet aussi pareil, hein, qui sera défiscalisé les gens, hein, qui...
Oui, vous faites bien de le dire, parce que donc voilà, on est sur un ticket à 250 euros, ce qui est une somme certes, mais dont vous pouvez défiscaliser 160 euros. Donc en réel, ça vous fait une soirée à 90 euros. Où vous allez manger des frères Pourcel. Je vous rassure, on ne les mangera pas eux, mais effectivement, vous allez manger un menu préparé par leurs soins, accompagné effectivement par la Maison Cabiron, et dans un lieu absolument magique. Et là, je regardais encore le programme musical tout à l'heure, élaboré par Valérie Chevalier. Je crois que ça s'apparente plus à un concert gastronomique plutôt qu'à un menu avec un tablier musical. Là, on est en train d'inverser la tendance, ça devient un concert musical agrémenté de
nos... Bien sûr, la musique va être au centre quand
c'est
même.
Ça.
Hein.
Voilà.
Pour revenir à Woodkid et à la liberté d'expression, est-ce qu'il y a un risque avec le mécénat? C'est-à-dire que quelque part, beaucoup de mécènes, est-ce qu'ils auront un droit? Est-ce qu'on peut imaginer une dystopie où le mécénat pourrait donner son avis sur...
C'est un risque. Maintenant, on s'attelle. Alors, c'est un risque. Beaucoup de gens me font part de cette peur.
C'est vrai.
Ouais. Et il y a pas mal de gens, même en interne, hein, qui sont mus par cette peur. Je crois qu'en fait, nous, il faut qu'on s'attelle à faire en sorte d'équilibrer les ressources financières, de faire en sorte qu'il n'y ait pas une personne qui puisse devenir majoritaire. Ça me semble évident sur le long terme. On a cette chance aujourd'hui à Montpellier de ne pas avoir d'injonction. Et on s'attellera, et je pense que Valérie Chevalier a cette qualité-là de faire en sorte que pas grand monde puisse peser, en tout cas sur ses choix artistiques.
Oui, je pense qu'elle est de taille à répondre. Hein.
Voilà, c'est ça. Et donc, je pense qu'on est extrêmement attentif à conserver cette liberté de ton, cette liberté d'action. Et le jour où ça tendra à venir se différencier, oui, je pense que là, on n'en est vraiment pas là. Vraiment, enfin, il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. Là, on n'a pas du tout ce type d'action aujourd'hui. J'en discutais avec des anglo-saxons, enfin, des gens qui viennent des États-Unis ou d'Angleterre, où c'est beaucoup plus répandu. Qui me disait que non, pour eux, il n'y avait pas ce type d'injonction. Bien sûr que ça peut se retrouver, hein. Bon, si on parle de certaines grandes maisons qui sont financées par des grands noms, bah, bien évidemment. Bon, mais là, ce n'est pas notre cas, nous on a une histoire. L'opéra, il a été fondé en 1888 et on a été fusionné avec l'orchestre en l'an 2000 sous l'injonction de Georges Frêche. On est fortement teinté effectivement d'action politique avec un ADN qui est extrêmement social dans son positionnement, dans ses choix éditoriaux, dans ses choix financiers. Donc non, je crois qu'on n'est pas prêt d'avoir un mécène aujourd'hui qui va nous dire faites ci ou faites ça. Et je crois qu'on a assez de force aujourd'hui pour se permettre de dire bah, monsieur, on préfère se passer de vous si jamais c'était le cas ou madame.
On voit quand même passer beaucoup d'informations, hein, des maisons d'opéra qui suppriment leur chœur permanent, etc. C'est une période un peu compliquée quand même. Hein. Où en est l'opéra de Montpellier? Est-ce qu'à l'heure actuelle, la vague un peu difficile et compliquée, hein, parce qu'il y avait un passif, il a fallu remonter la pente, après il y a eu le Covid, donc il y a eu beaucoup de choses compliquées quand même qui demandent à retrouver un niveau financier. On en est où là?
C'est en très bonne voie. On a multiplié par 3 les résultats de mécénat déjà. C'est en très très bonne voie. On a la chance d'être fortement soutenu par la métropole et la région et l'État. On avait la chance de pas trop avoir de subventions du département, donc le fait qu'il coupe tout cela, on n'a pas été impacté.
Oui.
On pense bien évidemment de manière dramatique à tous les acteurs qui sont concernés par cette décision, et c'est vraiment fortement malheureux. On est très vigilant à cela, bien évidemment. Aujourd'hui, l'opéra va bien. On a 208 emplois, 85 musiciens, 33 choristes, et on espère les garder le plus longtemps possible. Il n'est même pas question d'arrêter quoi que ce soit. Non, l'opéra va très bien.
Oui, c'est une chance d'avoir un soutien quand même, un soutien politique aussi.
Totalement. Oui, c'est et on les remercie chaque jour. Oui, c'est une immense chance. Maintenant, ils nous demandent aussi de développer nos fonds propres, et ce qui est normal et légitime. Donc, on s'y attelle.
Oui.
On revoit nos politiques tarifaires en restant dans l'ADN dans le positionnement de l'opéra, qui est un des opéras les moins chers de France. Hein, donc, quand on dit l'opéra, c'est pour les riches, bah non. Regardez notre politique tarifaire.
Est-ce qu'il y a une progression par rapport au nombre de jeunes qui viennent? Moi, j'ai l'impression qu'il y en a quand même plus qu'avant. Hein. Avant, on disait on a un public de cheveux gris. J'ai l'impression que les jeunes sont là quand même, hein, dans les salles d'opéra.
Il y a énormément de choses qui sont faites vers eux. Déjà, on a un concert étudiant qu'on leur donne chaque année. On a rendu accessible à 1200 étudiants gratuitement un concert. Donc nous, on a fait en sorte que ça ne nous coûte pas grand-chose parce que c'est une répétition générale, donc c'est dans les conditions exactes du concert. Nous, la plupart de nos répétitions générales sont ouvertes aux scolaires, sont ouvertes à des associations. Et ça, ça fait partie aussi de l'ADN de l'opéra, d'ouvrir au plus grand nombre. Bon, ça, il y a cette volonté qui est là, qui est permanente. Et donc là, chaque année, on a ce concert étudiant. On a une communication qui est dédiée aux jeunes, qui est vraiment très, très, très développée et qui se déroule sur TikTok ou sur Instagram. On fait des podcast pour aller effectivement sur les nouvelles technologies, avec en donnant accès justement à une autre facette de l'opéra. Venez voir les coulisses, comment ça se passe, comment ça se déroule, venez rencontrer chacun. Et ça passe aussi par la programmation. Valérie Chevalier a cette qualité absolue de faire le grand écart absolu, d'amener de la disruption, d'amener à l'opéra des choses qui ne sont pas forcément attendues. On va faire des escape games, on va faire des DJ sets. Il y a Barbara Butch qui vient de manière régulière. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du yoga depuis cette année à l'opéra, et du Qigong et du Pilates. On fait pas mal de choses qui ne sont pas du tout attendues. On a fait Youssoufa en concert symphonique. On ne voit pas que de l'opéra et de l'orchestre et de la musique classique et du symphonique à l'opéra orchestre de Montpellier, heureusement. Mais ça permet aussi de répondre à cela, de dire bah ok, il y en a aussi pour moi. On a une programmation gigantesque à destination des enfants aussi.
Ça, oui, tout à fait.
Et donc c'est pris d'assaut chaque année par les parents dont je fais partie. Et on n'en est pas peu fiers parce que je pense que c'est comme ça qu'on crée l'ascenseur social. C'est comme ça qu'on casse les barrières et qu'on fera en sorte que ces enfants qui consomment aujourd'hui à l'âge de 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, peut-être dans 20 ans, ils n'auront pas à subir ce que moi j'ai subi, devenir le déterminisme social. Mmh. Voilà, mon papa m'a amené à l'opéra et j'avais 4 ans. Et voilà.
C'est-à-dire qu'il y a le déterminisme social qui devient moins prégnant, je pense, parce que justement par ces occasions-là, mais il y a la réalité économique aussi.
Bien sûr.
Voilà. Ouais. Hein, qui actuellement, c'est pas complètement rose. Donc en fait, il faut pouvoir motiver les gens à dépenser quelque chose qui va être...
Justement, voilà. À destination des jeunes, nous, on a monté un dispositif qui s'appelle le Moonpass. Ça nous permet d'accéder en illimité à tous les spectacles de l'opéra orchestre. 3 mois pour 27 euros. Vous pouvez voir pendant 3 mois tous les concerts que vous voulez, même un opéra à des places relativement chères. Vous pouvez le voir dans le cadre du Moonpass. Donc, on a monté des partenariats avec Youth. Ça marche très, très bien. Le Moonpass, il y a 3 mois, 6 mois ou 1 an. Et vraiment, j'invite chacun à venir voir sur le site internet parce que il y a énormément de choses qui concernent les jeunes. Et on a des très, très gros efforts.
Et je pense que là, en l'occurrence, c'est vraiment le déclic qui se fait là. Mmh. Hein,
tout à fait.
Je te laisse la parole, c'est ton émission.
Je te remercie, Hélène. Mais moi, j'adorais écouter ce que vous étiez en train de dire. Pendant la préparation de votre fil du fer, Vincent, vous m'avez dit qu'en communication, on est souvent sous pression et à la convergence de nombreux intérêts. Mmh. Comment gérez-vous ces responsabilités et les moments de tension ?
Je crois que personne n'est identique. On a tous des approches différentes et des façons de gérer la pression. Y en a qui vont être hyper préparés. Ils vont faire des notes, ils vont vraiment se préparer énormément. Il y en a d'autres dont je fais plus partie, où ça va être avoir une capacité à s'adapter. Et je pense qu'en fait, le bon manager est celui qui va arriver à conjuguer toutes ces compétences-là et faire en sorte qu'une équipe de communication puisse être composée de personnes très agiles qui vont savoir s'adapter et d'autres extrêmement consciencieuses et très, très appliquées et très préparées pour qu'en fait, faire en sorte que l'ensemble de tout cela fasse quelque chose de merveilleux, quoi.
Vous êtes aussi enseignant en brand content, pardon pour... voilà. Quel plaisir trouvez-vous dans la transmission et quel rôle pensez-vous que les enseignants doivent jouer face à la montée du journalisme d'opinion et de ses travers ? 1 minute 30.
1 minute 30, wow, vaste
pour,
débat.
Pour refaire le monde.
À ma moindre mesure, j'essaie de répéter ce que me disait Arlette Bouzon, une de mes profs quand j'étais en DUT Infocom à Toulouse, qui nous disait sans arrêt, il faut différencier l'information de la communication. C'est vraiment, il y en a une qui est partie prenante, la communication, et l'autre qui tend vers l'objectivité. Bien sûr qu'effectivement, il y a des biais cognitifs, il y a des biais salariaux qui font que votre employeur va vous inciter à aller vers là ou vers là. Mais effectivement, comme vous le dites, le journalisme éditorial, c'est en train de tuer le journalisme. Qu'est-ce qui définit le journalisme, si ce n'est de donner à l'auditeur, au lecteur, la capacité de réflexion et d'analyse des faits. Aujourd'hui, quand on voit que les faits sont contredits par la post-vérité, l'avènement de la post-vérité, c'est absolument, c'est effroyable. J'ai très très peur de ce qui va devenir. Donc moi, à ma moindre mesure, j'essaie de gratter un petit peu le libre arbitre de mes étudiants, leur dire, bon, les gars, quand on vous dit quelque chose, interrogez-vous vraiment de qui me parle, pourquoi on me dit ça, et dans quel objectif, en fait. Vraiment de le dire, allez voir derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière en permanence. Donc, ouais, déjà rien que ça, ça serait pas mal.
Ainsi s'achève ce fil du fer en compagnie de Vincent Bobet. Je partageais l'émission et le micro avec Hélène Bertrand-Féline. Et merci à Léonie pour la technique.